J'ai en face de moi un drôle d'oiseau, si j'ose dire. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Hervé.
Gaëtan Cavit, pour le GON, groupement ornithologique et naturaliste du Nord. Gaëtan Cavit, qui compte les petites bestioles.
C'est comme ça. Je fais partie des gens qui regardent et qui comptent les petites bestioles qui ont des plumes.
Ouais. Et le constat, il n'est pas forcément terrible pour tout le monde.
Il est contrasté et effectivement, il n'est pas très bon pour un certain nombre d'espèces. Il est contrasté parce qu'on a vu, c'est vrai, revenir, notamment dans les villes, des oiseaux qui avaient un peu disparu. Et je pense... celui qu'on espère ici à Douai, dont on espère voir les petits bientôt, le faucon pèlerin. Mais le bilan, il est contrasté, notamment dans les zones agricoles où là, les effectifs d'oiseaux communs sont en chute libre.
Ouais, alors ça concerne des espèces qu'on rencontrait souvent, les alouettes par exemple.
Voilà, l'alouette, la linotte mélodieuse, le bruant broyé, le bruant jaune.
Ils sont partis où ? Ils sont partis ailleurs ou ils ne sont plus là du tout ?
Non, c'est qu'ils ne sont pas partis ailleurs, c'est que leur nombre diminue. Leur nombre diminue et on s'en aperçoit en faisant régulièrement ce qu'on appelle des stocks, des suivis temporels des oiseaux communs. C'est un protocole donc avec une rigueur scientifique qui consiste pour les observateurs volontaires à aller tous les ans au même endroit, soit sur un point d'écoute, une place fixe, soit sur un itinéraire qu'on appelle un itinéraire échantillon, aux mêmes dates, même endroit, même date, à 2-3 jours près, parce que s'il pleut, on va peut-être attendre un jour ou deux, et de noter systématiquement tous les contacts visuels ou sonores avec une espèce d'oiseau. Et donc, on a fait paraître un bouquin l'année dernière, fin 2017 précisément, qui analyse les tendances sur 20 ans. C'est-à-dire que sur 20 ans de suivi sur les mêmes points, sur les mêmes itinéraires, on peut vraiment arriver à écrire, à visualiser l'augmentation, la stabilité ou la diminution des effectifs.
Alors, s'ils sont moins nombreux, c'est pourquoi ? Ils n'ont pas suffisamment à manger, ils n'arrivent pas à nidifier. Qu'est-ce qui coince ?
C'est les deux, mon commandant. C'est même les trois. D'abord, pour qu'un oiseau reste et se reproduise, il faut de la nourriture, un milieu de vie, plus, au sens plus large du terme. C'est-à-dire un endroit où il va trouver de la nourriture et où il va réussir à mettre son nid pour pondre et élever ses jeunes. Et donc le milieu agricole a été quand même très très bousculé, on va dire, depuis quelques dizaines d'années. Les remembrements, l'augmentation des champs, la suppression des haies, l'augmentation de la surface. Et puis évidemment l'utilisation des produits. Alors on a eu il n'y a pas longtemps l'utilisation d'un nouveau mot. Et c'est vrai que c'est mieux que phytosanitaire, parce que ces produits-là n'ont finalement, comme disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, rien de phyto ni de sanitaire. Ce sont des produits écocides, pesticides, herbicides, fongicides, enfin destinés à tuer quoi. Forcément on constate, et ça on en a entendu parler il n'y a pas longtemps, une énorme diminution des insectes. Or les insectes sont la base de la nourriture des oiseaux, surtout au moment de la reproduction pour l'élevage des petits poussins.
Donc ces oiseaux ne peuvent plus nourrir, donc ne font pas...
Y a de moins en moins de reproduction, donc les effectifs diminuent d'année en année.
Ouais. Et puis, alors moi je me pose la question également, parce que je me souviens, mon grand-père habitait à côté d'une ferme, un corps de ferme, c'était très propice pour la nidification des hirondelles, je me souviens, mais y avait les lignes électriques aériennes qui passaient, trois, et d'avoir ces rassemblements d'hirondelles qui étaient là, c'est un truc qu'on ne voit plus jamais. Alors qu'est-ce qui se passe ? Elles sont parties ailleurs ou là c'est pareil, elles ne viennent plus ici, sur ces oiseaux qui migrent ?
Alors il faut distinguer migration et effectif d'oiseaux nicheurs. La migration est un phénomène qui, pour les hirondelles par exemple et beaucoup d'autres espèces, les amène à quitter nos régions et aller en général en Afrique subsaharienne, l'hiver, passer l'hiver parce qu'elles y trouvent de la nourriture. Les hirondelles, c'est typique, elles se nourrissent de plancton aérien, c'est-à-dire de petits insectes qu'elles chopent en vol, qu'elles attrapent en vol. Elles ne se posent pas pour manger des graines à terre, rien du tout. Donc l'hiver, baisse des températures, et ce n'est pas le froid qui les fait partir, c'est baisse des températures. Donc baisse du nombre d'insectes aériens, et elles partent. Donc ça, c'est le phénomène de la migration. Maintenant, les conditions d'accueil chez nous, en été, au printemps et en été, sont différentes d'il y a 30, 40 ou 50 ans. Une ferme traditionnelle, pendant des dizaines d'années, voire pendant des siècles, c'était une basse-cour, des étables, des vaches, du fumier, des canards dans la cour, etc.
Oui, mais ça ne répond pas aux normes hygiénistes européennes.
Exactement.
C'est incroyable.
Alors,
ça.
Voilà, donc l'hirondelle n'a pas disparu, Dieu merci, elle est encore là, mais effectivement les effectifs sont en diminution. En plus, les hirondelles nichent dans des bâtiments, elles vont poser leur nid à l'intérieur de granges, de grands hangars, sous un porche, etc. Les hirondelles en ville, dites de fenêtres, vont construire un nid en boue séchée dans l'encoignure d'une fenêtre. Et partout, lorsqu'on rénove, lorsqu'on clôture, lorsqu'on ferme les ouvertures, ben ça les prive d'accès parfois à des milieux où elles pourraient aller construire leur nid. Mais bon, il y a des efforts qui sont faits quand même. Hein. Y a des...
mais finalement, le nombre d'hirondelles qui sont de moins en moins fréquentes hein, sous nos latitudes, est-ce que ce n'était pas déjà un avertisseur ? Aujourd'hui, on nous parle de pics de pollution. On nous dit, attention, l'air devient irrespirable. Les hirondelles l'avaient déjà senti bien avant nous, finalement.
Alors, je ne sais pas, scientifiquement, est-ce que c'est un effet de la pollution Disons que c'est des sentinelles. Il y a longtemps qu'on doit faire attention à ça. Il y a longtemps qu'on aurait dû, et certains l'ont fait depuis plus de 30 à 40 ans, avertir, informer, alerter, c'est sûr. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que c'est dangereux aussi pour les humains.
Est-ce qu'il y a des espèces ornithologiques aujourd'hui qui sont en surreprésentation sur notre territoire ?
En surreprésentation, non. Ça me fait penser... lorsque je fais des sorties guidées, beaucoup de gens me disent comment ça se fait ? On n'est pas à la mer, il y a trop de mouettes. Il y a trop de hérons, il y a trop de cormorans. Ça, c'est une remarque assez classique. Alors d'abord, moi, je pose toujours la question, trop, c'est à partir de combien ? Et ça, en général, je n'ai pas beaucoup de réponses. En fait, ces espèces-là ont bénéficié d'une protection dans la fin des années 70. Sinon, elles n'étaient pas protégées. Donc, elles se sont adaptées aux conditions de nourriture. Et il se trouve que, voilà, c'est des espèces qui ont profité des activités humaines. Une mouette a profité pendant longtemps des décharges à ciel ouvert. Aujourd'hui, elle continue de profiter du site Sita à Le Ward, où on des tonnes et des tonnes de nourriture avariée, etc. Mais bon, elles ont un estomac qui supporte parfaitement ça, comme d'autres espèces d'ailleurs. Donc, il y a de l'eau au bassin de décantation de Brebières, il y a de l'eau au lac de Quentin, il y a de l'eau dans les marais de la Sensée, c'est un oiseau aquatique. Mais c'est pas forcément un oiseau maritime. Bon, même chose pour les hérons et les cormorans. Ces espèces-là ont reconstitué leurs effectifs en fonction des quantités disponibles de nourriture.
Enfin, le héron, c'est plutôt un bon indicateur que de voir un héron, parce que ça indique également la qualité de l'eau, parce que il y a besoin de poissons.
Alors, il y a besoin de poissons, mais pas que, parce que le héron a une capacité d'adaptation supérieure à celle qu'on imaginait. Il y a une quarantaine d'années, il y a 35-40 ans, quand j'ai commencé l'ornithologie, effectivement, le héron mangeait du poisson et des grenouilles. Pas forcément. On voit des hérons qui sont capables d'aller manger des mulots, des campagnols après la moisson.
C'est terrible parce que moi j'imaginais, comme je voyais beaucoup de hérons, je me disais c'est bien, c'est que l'eau est de meilleure qualité.
C'est pas aussi simple que ça, exactement. Par contre, le cormoran, lui, de toute façon, il est strictement pêcheur et lui, il va pas aller manger dans les champs.
Donc c'est un indicateur.
C'est un indicateur, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de nourriture. Alors là, on est en présence d'un conflit entre une activité de loisir, la pêche, on fait des réempoissonnements, etc. On leur ouvre des hauts champs gratuits, en quelque sorte. Mais après, on leur dit « Ah non, faut pas venir manger mes poissons ». Eux, ils pêchent pour manger, et que ça.
On va parler de ce radar qui va compter les oiseaux, financé par la région de France. C'est quoi cette affaire ?
Alors... effectivement, c'est un radar qui est censé comptabiliser les oiseaux migrateurs dans un sens nord-sud, sud-nord, etc., sur le littoral. Les ornithologues suivent les migrations depuis longtemps et on avait déjà constaté un certain nombre de phénomènes, dater les dates de migration des espèces, etc. Bon. Sans entrer dans la polémique, il faut savoir que depuis des années, les chasseurs contestent en partie les données des naturalistes, notamment sur les dates, parce que l'Union européenne a fixé des interdictions de chasser des oiseaux lorsqu'ils sont en période prénuptiale, en remontée de migration avant de se reproduire. Alors, le radar, ça peut être un outil complémentaire, je ne dis pas le contraire, ça peut être un outil qui permet d'acquérir encore plus de connaissances. La question, c'est comment va-t-il être utilisé, comment les données vont-elles être interprétées ? Et aujourd'hui, on se pose un peu des questions puisque les organismes qui gèrent son radar sont issus du monde de la chasse. Donc,
votre crainte, c'est que les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut ?
À partir du moment où on n'a pas d'avis indépendant sur la pertinence des analyses, on peut être amené à se poser des questions.
Est-ce que, et ce sera ma dernière question, vous pensez quand même que la chasse est indispensable à la régulation finalement, ou est-ce qu'on pourrait vraiment s'en passer? Moi, j'ai quelques doutes quand même. Je suis pas un pro-chasse, je suis pas un anti-chasse, mais est-ce qu'une régulation naturelle, c'est possible?
Alors, c'est la chose n'est pas simple. Il y a eu un exemple, c'est le canton de Genève, où il n'y a plus de chasse depuis des dizaines d'années. Bon, c'est un exemple un peu particulier, c'est spécifique, mais quand même, le canton de Genève, ça n'est pas que la ville, il y a des espaces boisés autour, etc. Dans ce canton, il y a quand même des actions de régulation, notamment, par exemple, des populations de sangliers. Donc, moi, je dis la chasse existe. La chasse existe. Simplement, nous, au GON, on estime que parfois, certaines pratiques sont un peu préjudiciables à certaines espèces. Nous ne sommes pas pour l'abolition de la chasse en tant que telle. Ça, c'est une position individuelle de chacun. Par contre, on estime que, dans certains cas, il y a des pratiques qui sont préjudiciables. Alors, est-ce qu'on pourrait se passer de la chasse? Aujourd'hui, la question ne se pose pas parce que, par exemple, il y a des surpopulations locales de lapins. On peut se dire, pourquoi le renard est nuisible puisque le renard mange des lapins?
Voilà. Simple constat, on est ici, place Saint-Amé, en plein air. J'ai pas encore vu un moineau.
Alors, le moineau fait partie des espèces qui sont en grande, grande diminution.
C'est incroyable.
En
ça.
Grande diminution. Et c'est multifactoriel, hein, y a plusieurs sortes, plusieurs causes. Et on n'explique pas complètement, loin s'en faut, la diminution des moineaux. Moi, j'ai habité 18 ans Coincy, hein, limitrophe. En 18 ans, j'ai vu le moineau disparaître du petit lotissement où j'habitais. Et on n'a pas d'explication totale et ferme à ça. Il y a sans doute des maladies, mais il y a aussi des problèmes de pollution, vraisemblablement.
Au GON, on compte les oiseaux, on compte pas que les oiseaux, on compte les batraciens, les insectes,
oui.
Enfin tout ce qui fait la...
On observe, si ce n'est compté, c'est pas toujours facile, mais on
ouais,
observe.
Voilà, vous avez besoin aujourd'hui de recruter de nouveaux observateurs. Et comment on devient membre actif du GON? Il y a un apprentissage qui est nécessaire?
Alors, en fonction du niveau de chacun, effectivement, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de sorties guidée pour donner envie aux gens. D'abord, il faut avoir du plaisir à faire ça. C'est le plaisir de l'observation, c'est le plaisir de l'identification, c'est le plaisir de pouvoir dire ben, « j'ai vu un oiseau que j'ai jamais vu ». Bon, c'est le plaisir de l'oiseau rare aussi. Et puis après, on se dit « mais il faut connaître ». Et la connaissance permet de savoir ce qu'il faut faire pour protéger. Et donc, souvent, beaucoup de gens qui ont progressivement comme ça, avec nous en sortie guidée, puis avec les bouquins, on a mis au point une formation ornithologie qui se déroule du mois de septembre à juin chaque année, à Lille et à Arras. Et puis, il y a des gens qui se disent « mais j'ai envie de faire plus ». Chacun a son niveau de disponibilité. Et puis, par exemple, des jeunes qui avaient suivi la formation ornithologique ont créé une section locale à Cambrai où il n'y en avait pas. Et voilà, donc effectivement, plus on est nombreux, mieux ça vaut, parce qu'on ne peut pas être partout. Plus on est nombreux, plus on est représentatif en tant qu'association. Donc oui, on recrute.
Voilà, avis, on contacte le GON, hein, on vous trouve facilement sur tous les moteurs de recherche.
GON.fr, GON.fr, et puis on a ici des sections locales, on est ici sur le stand. On a une réunion mensuelle le deuxième vendredi de chaque mois à la maison des associations de la Clochette.